mais d'autres pensent qu'il faut tourner la page. Quelle est votre analyse ?
Écoutez, oui, ceux qui disent qu'il faut tourner la page, ils le disent un peu au nom de l'unité. On a entendu au niveau de la House, au niveau du Parlement, un certain nombre de républicains dire dans leur discours par rapport à cette procédure de mise en accusation de Donald Trump qu'il s'agissait de tourner la page pour réunifier le pays, sans pour autant, ceci dit, au passage, défendre les actes, les paroles et les agissements de Donald Trump. Donc ça, c'est la thèse des uns. Pour les autres, ceci est absolument impensable. Pour tourner la page, il faut d'abord se dire la vérité, il faut d'abord exprimer les choses telles qu'elles se sont passées, les condamner, les juger, et ensuite, on pourra éventuellement tourner la page. Donc c'est sûr que ces deux positions relativement diamétralement opposées, et il sera difficile de trouver un compromis entre les deux, bien entendu.
Ce qui pourrait expliquer un peu la procédure qui se poursuit, et que certainement le président Trump pourrait faire face, disons, aux sénateurs. On ne sait pas quand, mais il pourrait faire face aux sénateurs pour un procès, non?
Oui, tout à fait. Et il semblerait pour la première fois qu'il y ait de véritables chances qu'il soit condamné, puisque il y a quelques jours, le leader des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a indiqué, en tout cas en privé, il ne l'a pas encore fait en public, a indiqué qu'il pensait que les agissements de Donald Trump étaient condamnables et qu'il devrait être condamné par le Sénat. Si cela arrivait, ce serait la première fois dans l'histoire des États-Unis.
Alors, docteur Mohamed Camara, la procédure de destitution est-elle appropriée à quelques jours de la fin du mandat de Donald Trump?
Je dirais oui, dans la mesure où cette procédure de destitution, quoique elle ne pourrait réellement être complétée que soit quelques heures avant la fin du mandat de Donald Trump, ou soit même après l'investiture de Biden, je crois que c'est un message historique que le Parlement américain veut donner au peuple américain, mais aussi au monde entier. N'oublions pas que l'Amérique est considérée comme étant ce phare global en matière de démocratie. Donc, je pense que une destitution de Donald Trump, même à quelques jours ou quelques heures de la fin de son mandat, est aussi l'expression de la détermination du Parlement américain de ne pas pardonner, de ne pas perpétuer l'impunité que l'on considère avoir été jusque-là, si vous voulez, l'arme fondamentale de Donald Trump et de son administration.
Il a mis en garde contre la colère de ses partisans en cas de destitution.
Bon, évidemment, il y a aussi ce risque-là, mais aussi, on veut faire comprendre aux Américains qui pourraient aussi avoir jusqu'à maintenant une certaine réticence à l'accepter, que la loi est impersonnelle, que la loi est, bon, comme l'analogie le dit, est aveugle. Elle ne voit que la réalité, elle ne voit que les faits objectifs. Et donc, cette action du Parlement, c'est aussi pour dissuader ces extrémistes que la démagogie, la rhétorique démagogique de Donald Trump a mobilisé et a lancé contre le Parlement. N'oublions pas que ces gens n'ont pas envahi une place publique quelconque dans un marché ou d'autres rues, mais ils ont envahi la chambre du Parlement ou les chambres du Parlement. Et je crois que c'est très important que le Parlement lance ce message-là aux générations présentes et futures.
Alors, Dennis Beaver, le président Trump a dit mardi que son discours devant ses partisans avant l'assaut du Capitole était approprié, qu'il était correct. Des millions de ses partisans continuent de dire qu'il y a eu fraude lors des élections. Comment est-ce qu'il faut concilier tout ça et...
Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, on disait non, ça peut jamais arriver ici en Amérique. On est trop fort. Hein. On voyait chez Trump, tu mens, tu lances des mensonges constamment. Ah, tu hurles les mensonges, tu cries des mensonges, et on va te croire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment diabolique, dangereux, pathologique. Et alors là, quel embarras, les gens comme moi qui ont voté pour lui deux fois. Moi, tellement en colère.
Alors, donc vous êtes déçu de voir qu'on en arrive là en tant que quelqu'un qui a voté pour Donald Trump?
Moi, j'ai voté pour lui puisque j'avais peur, j'ai toujours peur des gauchistes, des extrêmes gauchistes. Je n'ai pas vraiment aimé Trump, mais j'avais peur, beaucoup plus peur, des gauchistes. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent comme ça, qu'on n'aime pas cette direction, on va à gauche et c'est dangereux.
Alors, René, quelques 15 000 éléments de la garde nationale sont déployés, ou on va être déployés d'ici l'investiture de Joe Biden. Faut-il s'inquiéter, même au-delà de l'investiture, hein, que certains continuent de mettre en cause la légitimité du scrutin et peut-être causer des violences?
Oui, la question de la sécurité se pose, d'autant plus que, comme vous savez, Abdul Rahman, il se dit, plus que se dire, c'est même écrit dans certains rapports, qu'il y aurait eu des agents de police, des forces de l'ordre parmi les manifestants. C'est peut-être un mot peut-être un peu trop neutre pour ce qui s'est passé. Les craintes sont réelles. Il y a Jim Clyburn, le congressman de Caroline du Sud, aujourd'hui très en vue, numéro 3 au Congrès, mais également celui grâce à qui Joe Biden est aujourd'hui le président de la République, disait que s'il devait avoir le choix, son choix, ce serait plutôt que la cérémonie d'investiture de Joe Biden se fasse dans un cadre fermé, par exemple sous la coupole du Capitole, dit-il. Et il y a plusieurs personnes qui pensent cela, parce qu'ils pensent que le faire dans un espace public au niveau du mall où l'investiture se fait en général, sur les marches du Capitole, ça pourrait être très dangereux. Donc le risque, il est là, même pour l'investiture, et maintenant, bien entendu, après le 20 janvier, il y a le risque qu'il y ait... ça et là des attaques, des violences. Je crois que l'action sera...
D'accord. Alors, Mohamed Camara, quelles leçons faut-il tirer de ces incidents et comment voyez-vous le climat politique ici aux États-Unis pour les deux prochaines années jusqu'aux élections de mi-mandat?
Je pense que la première leçon à tirer de ces événements, c'est que la démocratie n'est jamais immunisée contre, disons, l'activisme démagogique, qu'il provienne du leadership politique ou alors de certaines entités au sein des citoyens, de la masse citoyenne. Une deuxième leçon serait que je pense que c'est un réveil pour l'Amérique, parce que j'ai l'impression que l'Amérique était devenue un peu complaisante dans ce qu'on appelle son exceptionnalisme. Et alors, après 300 ans et quelques, on se retrouve ici aux États-Unis après que le premier, pour le moment, l'unique noir américain et servi deux mandats à la présidence des États-Unis, à la personne de Barack Obama, et que ce soit son ancien vice-président qui se soit présenté comme l'opposant à Donald Trump, il y a un sentiment très profondément enraciné dans les cœurs et les esprits de certains Américains, et même au-delà, que Donald Trump, son élection, c'était un message raciste. Dire que quand on disait que il faut réclamer l'Amérique, il faut récupérer l'Amérique. La récupérer des mains de qui? La récupérer des mains de Barack Obama et d'autres êtres inférieurs qui chercheraient à confisquer notre Amérique, comme disent certains. Alors, quel que soit le sentiment, je crois que la réalité ici est que la démocratie, où qu'elle soit, et quelle qu'elle soit, n'est jamais invulnérable. Et il ne faut jamais la prendre pour argent comptant. Deuxièmement ou troisièmement, une leçon aussi qui se pose, c'est que désormais, il faut s'assurer que les gens que l'on élit au poste de président des États-Unis aient quand même acquis une expérience politique en matière de leadership qui, en soi, fournit les expériences nécessaires, la discipline nécessaire, le sens de responsabilité au-delà de la démagogie et de la politique partisane divisée.
D'accord. Alors, Denis Biveau, que doivent faire les deux partis politiques, le Parti républicain et le Parti démocrate, pour faire baisser la tension et revenir au débat sur les programmes, par exemple, les agendas, l'économie, et surtout, il y a aussi le Covid qui sévit.
Une bonne question. Tu sais que Biden avait toujours la réputation d'être quelqu'un qui pouvait parler avec les deux côtés, gauche et droite, hein. Et je crois qu'il va refaire tout ça encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut t'écouter. Il faut t'écouter. Il faut être poli. Il faut vouloir agir dans le nom du peuple américain au lieu de soi-même, de ses désirs politiques. On a vu chez les républicains qui pensaient que quelqu'un fauchait l'élection, on voyait chez eux égoïsme fantastique. Moi, je m'en fous, c'est pour moi, je veux que mon parti gagne et tant pis les autres. Ça, il faut abandonner cette attitude, il faut écouter, il faut travailler ensemble.
Il faut s'écouter des deux côtés, hein, parce que chaque parti a aussi ses propres contradictions à gérer, n'est-ce pas? Oui. Alors, en tout cas, merci. Je m'en vais lire quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Yannick Konjo Adamou à N'Djamena qui nous dit que je pense que la deuxième procédure de destitution contre le président Trump n'est pas appropriée. Le mieux serait de se tourner vers l'investiture de Joe Biden, préparer l'après-Trump et chercher à unir le pays. Alexis Kabembu à Elisabethville en République démocratique du Congo nous dit que les démocrates et les quelques républicains ont certainement raison de lancer une fois de plus la procédure de destitution de Donald Trump vu les actes de sabotage perpétrés par ses partisans dans le Capitole. Ce genre de comportement a mis en péril la démocratie américaine, le premier donneur de leçons en matière de bonne gouvernance. Et puis Charles Philippe, toujours en RDC, nous dit « La deuxième procédure de destitution de Trump vise à l'écarter de la politique aux États-Unis. » Quelques-uns des commentaires des téléspectateurs de VOA Afrique sur la page Facebook. Alors, merci de rester fidèles. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Les événements de la semaine dernière au Capitole ont été suivis à travers la planète et les images ont fait le tour du monde. Allons à Yaoundé, au Cameroun, où notre correspondant Emmanuel Jultap a promené son micro dans les rues de la capitale.
Très surpris d'ailleurs qu'un donneur de leçons ne fasse pas exemple de sa propre leçon. Et eux qui ont toujours montré l'exemple de la meilleure démocratie dans le monde, qui se retrouvent face à une situation pareille. Et aux yeux du monde, on se rend compte que nul n'est vulnérable, quel que soit le domaine, que ce soit la politique ou alors dans le monde des affaires ou quoi que ce soit, sachant tous qu'on est des hommes. Donc du coup, on peut pas se donner exemple sur quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas sûr qu'on est vraiment dans ce domaine. Donc c'est l'avis que je peux donner. Je suis très surpris de voir que c'est aux États-Unis que ça commence par.
Ça salit l'image des États-Unis, mais tout ce que Dieu fait est bon. Puisque les États-Unis sont en train de chuter, et nous devons voir par là qu'auparavant, ils ne se comportaient pas ainsi. Mais regardez ce que le président américain fait, le président sortant est en train de faire. Les actes qu'il est en train d'opposer, c'est médiocre.
Ça va automatiquement diminuer leur système démocratique. Parce que avec ce que je vois et avec ce que j'ai vu, bon, je vous ai dit que ça m'a fait avoir la chair de poule. Et je me dis que comme modèle, parce que moi je trouvais des blancs comme des modèles, mais de nos jours, je ne peux pas quand même, ils auront quand même réduire leur système. Parce que moi je ne pourrais plus imaginer que ces choses pourraient arriver à leur niveau.
Voilà, merci beaucoup. Et donc, je rappelle nos invités, Dr Mohamed Camara, professeur et directeur du département d'études africaines à Howard University, Dennis Beaver, avocat à Bakersfield en Californie, et donc René Lec, analyste politique ici à Washington. René, l'actualité américaine de ces derniers jours est très suivie, très commentée dans le reste du monde. L'image de l'Amérique est-elle écornée ou ces événements font juste partie de l'évolution normale d'une nation?
Écoutez, je crois qu'elle est écornée, elle est fortement écornée, l'image des États-Unis à travers le monde. Peu de gens pensaient qu'une démocratie aussi vivante, aussi robuste, aussi vigoureuse que la démocratie américaine pourrait se retrouver dans la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, que des émeutes puissent être organisées et que, au fond, qu'il y ait une insurrection au sens propre du terme dans la capitale américaine et avec un assaut, avec le Capitole pris en assaut par un groupe de manifestants qui contestent des élections qui, de toute évidence, se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Donc, c'est sûr que le monde est surpris. On pouvait s'attendre à ce type de situation ailleurs, mais pas aux États-Unis. Et en Afrique, la contestation post-électorale, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, mais on n'était pas habitué à avoir de telles images venant d'ailleurs, en particulier venant des États-Unis. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu dans certains autres pays, mais des États-Unis, quand même, considérée comme l'une des plus grandes démocraties au monde et des plus anciennes.
Mais certains pourraient dire aussi que l'Amérique a quand même montré qu'elle a des institutions fortes, non?
C'est tout à fait mon point de vue. Je sais que, bon, avec un peu d'amusement, un peu d'ironie, beaucoup de gens disent « Ah, mais écoutez, l'Amérique est devenue une république bananière. » Et ce n'est que dans les républiques bananières qu'on peut se retrouver dans ce type de situation où des élections sont contestées par le président de la République de surcroît. Et moi, ma réponse, c'est de dire, écoutez, non, les institutions américaines tiennent très, très bien. Le 20 janvier, à midi, Joe Biden sera le président de la République. Ça, je peux l'affirmer à une semaine de son investiture. Dans une république bananière, je n'aurais pas pu être aussi définitif, parce que justement, on ne sait jamais comment les choses vont se terminer. Donc les institutions ont tenu, elles ont tenu depuis 4 ans, malgré le climat relativement délétère qu'il y a dans le pays, au plan politique, au plan judiciaire, au plan journalistique, à tous les niveaux. Les institutions ont été malmenées, abîmées, mais le pays tient.
Mohamed Camara, comment voyez-vous les relations entre Washington et le reste du monde après ces incidents, aussi son image dans le reste du monde?
je crois que compte tenu des réactions que nous avons enregistrées vis-à-vis de l'administration Trump depuis son élection, et non seulement à des niveaux nationaux, mais aussi à des niveaux internationaux, y compris au niveau de l'OTAN, par exemple, et d'autres organisations intergouvernementales auxquelles appartenait l'Amérique. Compte tenu de tous ces sentiments qui se sont déjà dégagés et qui se sont enracinés au sein de leadership de ces d'autres nations démocratiques et autres, je pense que la présidence de Biden permettra à bien de ses leaders, à bien de ses pays qui sont certains sont les partenaires les plus proches, les alliés les plus proches des États-Unis, de se reconnecter avec la vraie Amérique qu'ils connaissaient et qu'ils veulent retrouver. Donc, je pense que après ces instants ou ces jours ou ces semaines de turbulence en Amérique, l'Union européenne, par exemple, l'OTAN et d'autres organisations internationales, et définitivement l'Afrique voudrait retrouver l'Amérique de pré-Trump, et certains auront plus d'espoir de retrouver cette Amérique-là, d'autant plus que Joe Biden, comme je le disais auparavant, a fut le vice-président de Barack Obama, lequel Barack Obama a dit à l'Afrique, à partir du podium d'Addis Abeba, devant l'Union africaine, que l'Afrique ne sera grande, forte et développée que quand on cessera de promouvoir des grands hommes, des hommes forts pour promouvoir des institutions fortes.
Des institutions
et comme vient
fortes.
De le dire mon collègue René, c'est ce qui va sauver l'Amérique.
D'accord. En tout cas, un message très fort en direction des politiques. René, le président Trump n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden, mais son vice-président Mike Pence et sa fille Ivanka pourraient bien être présents. Comment est-ce que vous analysez cela?
Oui, Mike Pence a déjà dit qu'il y sera. Joe Biden a réagi en disant que pour une fois, il était d'accord avec Donald Trump. Il dit là qu'il n'est pas indispensable et à la limite qu'il ne souhaite même pas le voir ou en quelque part, tant pis pour lui. Ça sera tout à fait exceptionnel comme situation. Ça montrera au fond que la transition a été difficile, hein, c'est quelque part à l'image de la transition, et ça a quelque chose relativement d'authentique, hein, puisque la réalité, c'est qu'il ne fallait pas donner une sorte d'image d'unité, d'image de transition tranquille, alors qu'elle ne l'a pas du tout été. Donc l'absence de Trump à l'investiture de Joe Biden est dans l'ordre des choses, de mon point de vue.
Et vous, Denis Beaver, vous aurez le mot de la fin. Comment voyez-vous l'avenir du Parti républicain qui va être dans l'opposition au moins pour les deux prochaines années?
Dans la boue, hein. Ils ont vraiment fait gaffe, ces gens qui ont soutenu Trump ces derniers jours. On pense éventuellement une troisième partie où on va les foutre à la porte, ces républicains qui ont agi avec Trump, hein, pour complètement vraiment détruire cette élection. Je vois pas d'avenir brillant pour les républicains. Par contre, ils vont vraiment perdre dans 2 ans au Congrès, je crois.
D'accord, on va suivre en tout cas. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités. Merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent sur voafrique.com, mais également à travers nos télépartenaires sur le continent. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.